Tribune PSG sur France Bleu. Bruno Salomon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune PSG. Oui, je sais, c'est une gueule de bois. Alors, c'est une gueule de bois footballistique. Il n'y a pas d'alcool, zéro alcool. Mais par contre, une bonne grosse défaite avec un Beaujolais qui tâche. Non, avec plutôt du Côte-du-Rhône. Les Gones qui ont balayé le Paris Saint-Germain, comme en 2016, comme en 2018, comme désormais en 2019. Le PSG est allé perdre du côté de Lyon. Le score 2-1, c'est toujours le même. Pour les parieurs, c'est assez facile. En tout cas, le Paris Saint-Germain, hier soir, a un petit peu déçu. Est-il inquiet? Inquiétant ce PSG, on va parler du milieu de terrain, des latéraux qui ont bien sûr déçu. On va parler de Manchester United avec le coach de Manchester qui était dans les tribunes hier. Il a dû se régaler et se délecter de voir ce Paris Saint-Germain avec ses défauts affichés au grand jour pendant 90 minutes. Là aussi, on va débattre dans cette émission. On va parler du mercato bâclé du Paris Saint-Germain, de ces deux derniers jours complètement ridicules du PSG avec un homme au milieu de ce bazar, c'est Antero Henrique. Il est pointé du doigt par les supporters, par les observateurs, mais aussi un petit peu parfois même par son entraîneur Thomas Tuchel. Est-ce que c'est lui le fautif principal de ce mercato bâclé? Là aussi, on en parle dans Tribune PSG. Enfin, Manchester United, c'est dans 8 jours. Moi, je pars dans 7 jours à Manchester. Wouhou! Mais pour le moment, on n'est peut-être pas prêt du côté du PSG. On va voir ça. 17h34 dans Tribune PSG. Ouais, je suis chaud, je suis énervé, je suis sous médicaments. Je suis malade. Je suis malade comme toute l'équipe qui est dans ce studio.
Ça ne s'entend pas,
effectivement. Avec Queen Bee, Émilie Ross, qui est avec nous. Salut, Émilie.
Ça va bien?
Et toi?
Non.
Elle est malade.
Je suis vénère.
Voilà. Et en tout cas, elle est très énervée. Elle était à Lyon hier. Et elle va nous en parler de cette expérience dans ce stade connecté, qui est le Groupama Stadium.
Le formidable outil de Jean-Michel Aulas.
C'est ça, formidable outil. On n'ira pas plus loin. C'est pour le foot123.fr. Le rédacteur en chef, j'avais envie de dire une fois, puisqu'il était à Bruxelles pendant 48 heures. C'est tonton Steph. Salut mon Stéphane.
Ça va Bruno?
Ça va.
Bonjour à toutes et à tous.
Ouais.
Ouais, ça va. Bah ça va, oui, ça va, bien sûr. Je suis pas rassuré sur ce que j'ai vu hier, mais ça va.
Bon, Joss aussi n'est pas rassuré. Joss, c'est un petit peu grand corps malade depuis 3 jours sur les réseaux sociaux si vous le suivez, notre youtubeur. Alors non, c'est pas mal grand corps malade.
Ouais, bof. Franchement, bof. Mais je vais me rattraper en disant que moi aussi je vais à Manchester.
Voilà, youtubeur, rap, foot, et depuis 3 jours, donc spécialiste en pharmacie, il demande des conseils sur les réseaux sociaux pour savoir comment lui enlever sa grosse grippe. Ronan Folgoas, lui. C'est un rock.
Oui, mais écoutez,
la santé, ça va?
Je suis un peu fébrile.
un petit peu comme le PSG.
Mais
quoi.
Non, ça va, Bruno. Ça va. On a été calme, on a été très sage à Lyon.
Tout à fait. En prévision de Manchester. Évidemment. Le Parisien, en tout cas notre partenaire, et Ronan Folgoas, l'un de ses membres émérite de la rédaction du Parisien, que l'on salue. Enfin, un invité aujourd'hui, c'est Anthony Vivien, des Titi du PSG, l'association de référence pour la formation du PSG. Salut Anto.
Salut Bruno, salut la team et salut à tous les Titi.
Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le signe, des Titi. Oui, c'est ça,
c'est
exactement,
parti.
Les Titi. Et alors, il est venu avec.
Ce serait comme le thé de. Ouais, le
alors,
thé
pour
de
ceux
titi.
Qui nous.
Ah, oui,
voilà.
Bien joué, tonton.
Merci, tonton.
Voilà, c'est bien. Tout le monde aussi. Est en forme dans le cette émission. On va revenir parce qu'Anto, il m'a dit j'ai apporté quelque chose. Je suis là aussi pour soutenir quelqu'un. On en parle dans quelques instants. Mais pour le moment, dans cette émission, on va se faire mal. Allez, tout juste une minute. Charlie qui est à la console, c'est à toi.
Maxa qui avance la balle au pied, qui l'a dit Maria, qui va frapper. Goal pour le Paris Saint-Germain. 6ème minute et 45 secondes de jeu. Le ballon décroisé de la part d'André Di Maria,
super.
Une quinzaine de mètres. Mais quel service de Julian Draxler, quel travail de Draxler. Hop. Et la faute. Et là, le but et l'égalisation, le centre côté droit de Léo Dubois. Et avec Alphonse Areola qui se coince la jambe, je sais pas ce qui se passe.
Ouais, il a raté son appui.
Il a 2 secondes de retard dans son appui et il rate le ballon pour aller chercher de la tête, des mains ce ballon. Et c'est Ndombele, Dembélé qui s'envole dans les airs et qui vient claquer ce ballon au deuxième poteau. Nabil Fekir, des petits pas, c'est parti contre pied, c'est but. But pour l'Olympique Lyonnais, 2-1 pour l'OL face au PSG, 48e minute de jeu sur pénalty.
Je sais pas si vous avez vu, c'est pas tout à fait le même ton quand le PSG marque et quand Lyon prend l'avantage. 2-1 pour l'Olympique Lyonnais, la défaite du PSG là. première en championnat, la troisième de la saison. Il y a eu Liverpool, il y a eu Guingamp et désormais il y a Lyon. Les amis, depuis ce matin, ça grêle, depuis hier soir, tout le monde s'énerve contre cette défaite. Parce que oui, effectivement, on a vu ce PSG assez inquiétant, on va en parler. Mais sur le tableau et le paperboard, oui c'est moi qui ai écrit, j'en suis désolé, j'écris comme un cochon. J'aimerais avoir votre avis, je veux prendre un contre-pied tout de suite. Je veux un élément positif sur ce match. Avant d'être négatif, parce que je sais qu'il y a plein de choses à dire, je veux que vous me sortiez quelque chose qui s'est plutôt bien passé quand même. On va quand même pas brûler la maison pour 90 minutes à Lyon. Joss.
Alors, le point positif pour moi, mais qui a été aussi négatif, c'est malheureusement le côté un peu schizophrène de Alphonse. Alphonse Areola qui a fait un très bon début de match, qui a sauvé pas mal de situations, qui nous a maintenu en vie durant les pressions lyonnaises. Mais à la fin, le but qu'il encaisse, c'est sur une erreur de sa part et ça ternit un petit peu tous les bons arrêts qu'il a fait avant, malheureusement.
On avait l'impression qu'il était parti sur sa prestation, Alphonse, du match de face à l'Allemagne.
Ah bah
on était
oui,
parti sur le même niveau.
Ça.
On était sur le même niveau.
Le double arrêt là, au début de la rencontre, là.
Sur deux pas, ouais, incroyable.
Vous voyez qu'on est capable de trouver des choses un petit peu positives sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on trouve des choses positives à sauver, Émilie, ou pas? Ou déjà, t'es dubitative.
Oui, après,
on va écouter Émilie. Message.
Alors, il n'y a aucun point positif d'après Léa. Ako nous dit Turpin, non, je rigole. Tonio nous dit les 15 premières minutes et les 30 dernières.
Voilà.
Oui, mais ça fait beaucoup, ça fait une moitié de match. Et moi, franchement, je trouve que c'est vrai que le PSG a réagi, c'est vrai, sans efficacité, mais il y a eu des occasions, des opportunités en pagaille, en fin de match.
Qui a cru, toi, pendant le match ?
Franchement, c'était compliqué, ça se joue à trois fois rien, une intervention de Lopez, qui est un excellent gardien, qui peut être le meilleur gardien de la Ligue 1 en ce moment.
Très énervant, le garçon.
Ah oui, oui, oui.
Très énervé, très énervant.
Kylian Mbappé a eu des occasions, et franchement, le PSG avait le droit de ne pas le perdre ce match, hein, était en capacité de ne pas le perdre. Mais voilà, bon.
Oui,
j'ai un élément positif qui nous est donné par Julien.
Très bien.
Que j'embrasse. Un élément positif, tu as affronté une équipe de haut niveau qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, donc c'est une bonne préparation pour la Ligue des Champions.
Bon, c'est d'accord, tonton.
Bah Di Maria aussi, Rosa.
Le contre-pied, c'est qu'on est redescendu sur Terre et que ça va nous permettre d'aborder Manchester de la meilleure des façons, c'est-à-dire que c'est loin d'être gagné, malgré tout ce qu'on a dit au tirage au sort. Il faudra un grand PSG pour sortir Manchester. Et donc, on a vu hier que malheureusement, pour l'instant, la répétition générale, elle était manquée, ce qui n'empêchera pas peut-être de réussir le match à Old Trafford.
Vous n'hésitez pas à partager cette émission, l'album Panini 2018-2019, avec tous les arbitres, dont Clément Turpin en vignette, et ça c'est important. Et ensuite vous aurez le jeu Pro Cup, et c'est pas mal, je suis assez content de mon coup là, pour Clément Turpin. Non, c'est pas mal, parce que lui aussi il était... Non mais je sais qu'il faut pas tirer sur l'arbitre, mais quand même...
Mais attendez, à chaque fois dans cette émission, et d'ailleurs partout,
oui,
quand Paris perd un match, ça n'est que de la faute des arbitres.
Non, ça nous aurait pas sauvé en plus.
On n'a pas dit ça.
Ça nous aurait pas sauvé.
Ça nous aurait pas sauvé.
Ça nous aurait pas sauvé.
Ça mérite un rouge.
On est d'accord.
On est d'accord. Ça change rien.
Nous n'aurions pas gagné.
À la physionomie du match. Et pendant qu'on parle de l'arbitre, on parle pas des carences du PSG. On avait fait la même chose.
Ah ben j'espère qu'on
va en parler. Ok, il y avait carton rouge à mort.
On est d'accord. Faut trouver un point positif. Donc on reste dans le positif. Mais il y a beaucoup de négatifs.
Et moi je me tournais vers Anthony aussi.
Non, je rejoins complètement Julien ainsi Cronan, à savoir que il fallait que cette première défaite arrive un jour ou l'autre. Elle arrive, je pense, au bon moment. Et comme le disait Stéphane, ça va requinquer l'équipe et faire en sorte à ce qu'elle arrive à Manchester sans excès de confiance. Voilà. Et voilà, donc il fallait que ça arrive. Donc je pense que c'est une défaite dans laquelle il faut tirer du positif.
C'est une bonne piqûre de rappel pour vous autour de cette table.
Moi je vous veux tous les choses de toute façon. Je trouve que Thomas Tourelle, c'est Monsieur Bricolage, mais de sa
pas de son fait.
Il subit la situation, mais il est obligé de bricoler au milieu de terrain. Et puis là, il touche du doigt les limites du modèle, quoi. C'est-à-dire qu'en en bricolant un milieu de terrain, on construit une équipe bancale. Et c'est le cas depuis plusieurs semaines, parce que Le mois de décembre a été compliqué. Le mois de janvier un petit peu magnifié là par la raclée infligée à Guingamp. Mais sinon il y a rien de très très brillant. Une élimination en coupe aussi. Voilà, donc finalement cette défaite elle arrive dans cette série, dans cette séquence un peu morose là hivernale. Et puis évidemment privé de Marco Verratti, privé de Neymar, ça fait beaucoup. Privé d'Adrien Rabiot évidemment. Donc voilà, ça devient très compliqué. Moi je suis pas spécialement confiant pour le déplacement à Manchester.
Non mais on n'a pas. Ah non. Défaite inquiétante qui va au moins permettre d'arriver là-bas sans avoir le cigare se disant il va falloir être sacrément motivé et sortir le grand jeu pour s'en sortir. Mais effectivement, il n'y a pas plus inquiétant puisque à 9 jours du match le plus important de la saison, Paris se ramasse face à un adversaire qu'on peut qualifier d'à peu près du même niveau. Donc c'est très inquiétant, mais d'un autre côté, par rapport à l'état d'esprit, au moins on est sûr qu'ils vont arriver sans avoir le cigare.
Alors, il y a Alves qui prend cher sur les réseaux, on ne va pas se cacher.
On va en parler tout à l'heure, parce qu'on va parler du milieu de terrain. On va faire une séquence vraiment sur ce milieu de terrain qui est... Voilà, après Bob le bricoleur, il y a Tom le bricoleur.
Il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a plus de milieu de terrain.
Je n'ai pas parlé.
Je crois qu'il faut qu'on arrête...
Vas-y. C'est la voix des internautes, mais elle est là pour donner leur avis.
Mais oui, attendez les copains. Bah oui, c'est vrai, hop, il bascule. Alors, il y a Mickaël qui nous dit ce match était catastrophique et Alves aussi. Mickaël, un autre nous dit pourquoi Tourelle ne fait pas jouer Meunier vu la prestation catastrophique d'Alves. Vous allez voir, ça revient beaucoup et la question de Meunier se pose aussi. Il y a Will qui dit je me suis fait chambrer hier pour notre défaite, je suis triste, j'ai un goût amer et après je me mets dans la peau d'un Marseillais, je me dis que finalement tout va bien. Léa nous dit qu'elle est pas rassurée du tout pour Manchester et Roman nous demande, et ça c'est pour toi Anthony, Hello la team annonce du Titi d'or en direct ou pas?
Et non.
Suspense. Mais un indice peut-être.
Voilà, peut-être.
Peut-être en cours d'émission.
On voit sur les trois derniers.
En cours d'émission.
En cours d'émission. En cours.
On va essayer. En tout cas, le Titi d'or, bien sûr, qui sera annoncé demain matin avec le Paris Saint-Germain. Le Titi d'or 2018. On rappellera le règlement pour savoir qui est le Titi dans quelques minutes. Alors, sur cette défaite inquiétante, on a vu une défense fébrile. On a vu un milieu de terrain parfois aux abois. Franchement, quand on a des gars de métier comme Tanguy Ndombele qui te rentrent dedans, Marquinhos, la première action, le premier moment, avec Ndombele qui met un tampon à Marquinhos, on se dit que ça va être très compliqué au milieu de terrain et on se dit que ça va être la même chose face à Manchester. Et puis cette attaque qui balbutie, on se cherche pas, on joue pas ensemble. Tout est maladroit.
On est aussi très maladroit. Mbappé hier dans le dernier geste, voir Cavani, ça n'a pas été terrible.
Défaite inquiétante, tout simplement parce que c'est toujours la même manière en fait. À chaque fois que le PSG est pressé, ils perdent les premiers duels. Et hier, c'était vraiment criant. Lyon gagnait les premiers duels. Lyon était très présent dans le pressing. Et pour une fois, on est tombé sur une équipe qui a réussi à maintenir son pressing de la première à la deuxième mi-temps. Ensuite, le problème, c'est qu'au PSG, le milieu de terrain, c'est pas un milieu de terrain de métier. Et justement, on parlait des attaques, mais concrètement, les attaquants n'étaient pas alimentés non plus en ballon. Ce qui fait qu'aussi, on a un attaquant qui, je le répète, n'arrive pas à construire dans le jeu. Et ça a été criant hier. Cavani, lors des contre-attaques qu'on avait, c'est lui qui ralentissait le jeu, c'est lui qui n'arrivait pas à donner le dernier ballon, c'est lui qui à chaque fois manquait de précision et ça nous a coûté énormément d'occasions. Et en plus de ça aussi, Mbappé qui pêche dans la finition, ça fait...
Non mais tout simplement, c'est une attaque qui est orpheline de Neymar, qui n'arrive pas à se réinventer. Et puis, moi je suis désolé, je trouve qu'il y a trop de joueurs qui étaient en dessous de leur du standing, quoi, d'un match comme celui-ci. Je pense à, allez, on va les citer, hein. Je pense à Thilo Kehrer, arrière droit, c'est pas une réussite.
Pas ça.
Autant en défense centrale, on est tous d'accord pour dire que c'est pas mal, c'est assez intéressant. Arrière droit, c'est pas bon. Daniel Alves, on en parle. Juan Bernat, souvent en difficulté, il a pris le bouillon
Thiago
régulièrement.
Silva, peut-être le plus dans la difficulté, alors que jusque-là, depuis quelques temps, il nous montrait quelque chose.
C'est à cause du Parisien, de votre papier, de dire qu'il était dans la forme de sa vie.
Mais c'est vrai, il avait raison.
Thiago Silva,
c'était vrai. Et j'ai trouvé que Marquinhos manquait en défense centrale. et que finalement, c'est quand même son meilleur poste, et que hier, ça s'est vu, et qu'en plus, il apporte pas toujours au milieu ce qu'on peut attendre d'un milieu de terrain.
Il apporte pas du tout, faut pas dire peu. Il apporte pas du tout ce qu'on attend d'un milieu de terrain sentinelle qui peut casser les lignes.
En fait, tu dépouilles la défense et tu renforces pas forcément le milieu. Bah donc, t'as double peine.
Anthony Vivien, tout simplement. Titi du PSG.
Oui, non, mais je rejoins tout le monde à savoir que comme on n'arrive pas à tenir le ballon au milieu, on subit un peu plus qu'à l'accoutumée. On n'a pas l'habitude de ça. Et voilà, donc ça manque cruellement de joueurs pour porter le ballon au milieu, que ce soit dans les temps forts, les temps faibles. Et il n'y a pas de liaison entre l'attaque et. Entre la défense et l'attaque.
Draxler qui est censé, je dis bien censé, doubler Neymar dans cette période d'indisponibilité. On se rend compte qu'il n'a pas le niveau pour faire ça. Il est très bien en complément. Voilà.
Il a été très bon au match précédent, je pense que c'était face à Rennes, il me semble. Et là, il a été mauvais. Donc, à partir de là, quand
même. Mais c'est bizarre, ces inégalités, en fait.
Le joueur n'est pas bon. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas de Draxler, mais c'est vraiment pas bon. Il est pas bon. Je suis désolé. Depuis qu'il est au PSG, c'est 11 buts pour un joueur. C'est un joueur offensif. C'est un champion du monde, les amis.
Le seul poste qu'il a pas fait au Paris Saint-Germain, c'est gardien de but.
D'accord. Mais même quand il est en position d'attaque, il est pas forcément super dangereux. Je répète, 11 buts depuis qu'il est au PSG.
On parle d'un champion du monde.
Il apporte pas ce qu'on attend d'un champion du monde.
C'est
désolé,
c'est fulgurant.
Il faut arrêter. Quand on prend Draxler champion du monde, on attend quand même un joueur qui peut faire la différence, qui quand Neymar est blessé, va porter un petit peu l'équipe. Il porte pas l'équipe.
C'est pas son rôle.
Et dans son match d'hier, le seul point positif, c'est l'interception sur Ndombele qui amène le but. Mais après on ne se souvient pas du match de Draxler.
Ah, si, on se souvient même qu'il a pas été bon. Moi, je suis d'accord là. Tu vois. Évidemment. Mais je pense que Draxler, on lui a jamais demandé dans une équipe où tu as Cavani, Mbappé et Neymar d'être un buteur.
Mais je suis d'accord avec toi sur le fond.
Oui.
Mais à un moment donné, s'il ne sait pas se motiver tout seul, qu'est-ce qu'on fait?
Sur les réseaux sociaux, Émilie, ça grêle, ça grelotte.
Oui, d'ailleurs, je vous remercie tous parce que du coup, ils se répondent même entre eux et tout. On a les meilleurs internautes du monde, je vous le dis. Il y a Jean-Philippe qui nous dit l'avantage de Manchester, parce que du coup, bien évidemment, les débats se mélangent, mais vous allez comprendre. L'avantage de Manchester, c'est que eux, ils ont de bons milieux de terrain, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on souligne. Alexis nous dit trop de confiance, on retombe aujourd'hui sur terre. Tchèque nous dit la tendance s'inverse, aujourd'hui, la confiance est du côté de Manchester. Steve nous dit vous croyez pas que les joueurs jouent avec le frein à main et ont peur de se blesser avant justement ce match. Et il y a Jack aussi qui nous dit on n'en parle pas trop vu que c'est le chouchou, mais Mbappé aussi, il fait trop de mauvais choix.
Mbappé, effectivement, moi je suis d'accord avec Jack. Depuis janvier, il marque peut-être contre Guingamp ou autre, mais.
Mais l'après Ballon d'Or est difficile à digérer. Ouais. Je pense qu'il a beau dire ou faire croire qu'il n'était pas, que c'était une année où c'était encore là, il était là pour apprendre. Je pense qu'il y a cru et que c'est un peu difficile de redescendre sur terre. Mais il a bien compris aussi, et ils ont tous compris, que c'est par la Ligue des Champions que tu obtiens le Ballon d'Or. Donc s'ils ne sont pas bons contre Manchester, voire après, c'est même pas la peine d'y penser. Tu peux mettre 4 buts par semaine si tu n'es pas bon. On l'a vu, même en Coupe du Monde, en remportant la Coupe du Monde, il n'a pas eu le Ballon d'Or. Donc,
sur Kylian Mbappé, Joss.
C'est vrai que Kylian, il est dans le dur depuis un certain temps. Et je pense qu'il aura vraiment beaucoup de boulot face à la défense de Manchester United. Pour revenir sur Manchester, moi, dès le tirage, je vous l'ai dit, vous le savez, que c'était une équipe à craindre. Aujourd'hui, leur milieu de terrain, il est encore plus, j'ai l'impression, rodé qu'avant. Il joue vraiment avec une espèce de synergie qui est entre avec un Pogba qui est replacé un peu plus haut.
Et Marcus Rashford
qui est incroyable. Hier, c'était Ndombele qui a réussi à mater le milieu de terrain du PSG. J'imagine même pas Matic, Pogba, Herrera face à Marquinhos.
Voilà, Draxler, qui vont bomber le temps.
Et comme tu le disais, un match de foot, ça se gagne au milieu de terrain.
Ah bah oui.
Donc c'est, voilà.
Alors, message de Chloé qui réalise cette émission, mets-toi bien devant le micro, s'il te plaît.
Yes.
Voilà. Elle me fait des signes depuis tout à l'heure. Voilà, c'est fait.
Il y a bien un Lyonnais à prendre. Ou que j'aimerais que Paris prenne, c'est bien Ndombele.
Ah bah ça, on reparlera du mercato, mais excuse-moi, il était à 100 bornes de Paris, à 116 km très exactement de la porte de la maison de la radio. Tu fais ça sur Waze, il n'y a pas de problème, tu envoies tes scouts 4 fois, il était à Amiens, et on l'a raté quand même.
Le nombre de joueurs qui ont échappé au Paris Saint-Germain et qui sont de la région parisienne,
ça on est d'accord.
T'as quasiment la Dream Team montée.
Attention, là, oui, mais sauf que là, t'as le vrai, chef des Titi.
Malheureusement.
Il n'y a que 70 lits en centre de formation, on ne peut pas.
Moi, j'en aurais bien rajouté. je ramenais moi-même les 2-3 qui manquent pour compléter cet effectif.
Pour terminer sur cette partie, après on va venir bien sûr sur le milieu de terrain, etc. Mais on a parlé de Kylian Mbappé. Est-ce que toi, il t'inquiète, Ronan?
Il m'inquiète, non, parce que c'est de lui aussi que pourra jaillir la lumière à Old Trafford la semaine prochaine. Donc, faut pas, on va pas l'enterrer. Merci, Mélie. mais en même temps, c'est vrai qu'il. Puis là, je le sens paumé, moi. Je le sens paumé sans Neymar. Ah, okay. Il a perdu son complice avec Cavani, même si je sais.
C'était quoi sa réflexion hier à Mbappé? C'est de dire, j'ai pas eu des bons. C'était un peu acide. C'était le côté.
Oui, alors.
C'est pas de sa faute.
Alors, voilà. Je sais pas à qui est la faute. Est-ce que c'est moi qui faisais des mauvais appels, ou est-ce que c'était les passes qui m'étaient adressées qui étaient mal dosées? On a l'impression qu'il penchait plutôt d'un côté, mais encore
ses appels n'étaient pas non plus
encore
fou,
que non mais je pense qu'il écartait pas sa responsabilité, donc c'est une formule assez sincère pour le coup. Et après il a voulu sans Neymar aussi, il se sent peut-être investi d'une responsabilité forte,
et donc
on le voyait dézonné là parfois, je le voyais au milieu de terrain dans l'axe dans un rôle de faux numéro 10
de
là
loin, hein. C'est ouais, pour ouais, ça qu'il n'arrivait pas,
et c'est vrai qu'il a du mal à s'exprimer raison, puis face au but il a perdu dès la deuxième minute quand même. C'est il a une occasion en or, hein, on s'en rappelle. Et là j'ai envie, là voilà, c'est décevant quoi.
On oui, s'étonne tonton, mais après, je rappelle quand même qu'il manque quasiment les deux joueurs les plus importants au Paris Saint-Germain en ce moment. Marco Verratti au milieu, on sait qu'il est indispensable.
Bien sûr.
Et Neymar, bon, alors carrément, lui, cette année, il est incontournable dans la création. Donc quand tu n'as pas ces deux mecs-là, ça devient très compliqué.
Rappelez-vous, en début d'année, on souhaitait les vœux, là. Et en rigolant un peu, je vais dire, la santé, surtout la santé pour les joueurs du PSG. Mais on y est là encore une fois. J'ai l'impression que les saisons passent, elles se ressemblent, c'est terrible à dire. Je sais pas ce qui se passe, c'est le climat, j'en sais rien. Mais voilà, chaque année, le même schéma se reproduit.
Faudra au mois de février.
On va voir ces tableaux un peu, mais là, il y a quand même le retour de Marco Verratti qui est attendu cette semaine à l'entraînement. Peut-être contre Bordeaux, en principe, contre Bordeaux.
C'est normalement ça le programme.
Samedi, voilà, c'est le programme en tout cas. Mais il est indispensable qu'il y ait une étape Bordeaux, là, samedi prochain pour lui, si on veut le voir mercredi.
On va parler du milieu de terrain, justement, dans quelques instants. On va tourner la page de tout cela. Toujours dans cette rencontre, ce manque d'envie, ce manque de conviction, ce manque de niaque, on va en parler dans quelques instants, mais pour le moment, j'ai Émilie qui a levé le doigt pour la voix
exactement
des internautes. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Partagez l'émission, les amis, je vous rappelle, pour emporter le jeu Pro Cup et le jeu Panini avec Clément Turpin. Oui.
Moi, je veux qu'on reçoive un arbitre. Je veux comprendre des trucs. Il y a Choco qui nous dit, un match de foot, ça se gagne par le mental et la détermination, ne l'oublions pas. PSG fan forever, qu'on embrasse parce qu'ils nous suivent souvent et surtout sur Instagram. Il me dit, désolé Émilie, mais pourquoi Choupeau remplace Cavani? Eh ben, mon grand, je suis d'accord avec toi, j'en aurais chialé hier. Jean-Philippe nous dit, Mbappé sans Neymar, c'est assez faible. Michael nous demande, est-ce que Paris choisit ses matchs? Et Abdelrahman nous dit, attention les gars, vous êtes trop défaitistes.
Comment on peut choisir ces matchs quand on sait que c'est peut-être l'un des matchs les plus sexy finalement de la saison à l'extérieur?
Moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient spécialement renoncé hier. Ils sont tombés sur une équipe meilleure qu'eux, tout simplement.
Qui leur tenait tête,
et qui leur a tenu tête et qui a pris le
excellent
les
gardien.
Oui, en plus, oui. J'ai pas eu l'impression, jusqu'au bout, comme tu l'as dit au début de l'émission, ils ont tenté, même si moi j'y croyais pas parce que je sentais bien que c'était le soir où ils allaient passer à côté, mais il y avait de la conviction. On peut pas dire, la preuve c'est que.
Moi, franchement, la première mi-temps était de très haut niveau.
Si Thiago Silva, il va pas bousculer Dédé là-bas, il y a pas péno, quoi, tu vois. Et bon, alors après, est-ce qu'il lui a pris le pied ou pas? Est-ce que c'était avec l'avant? On pourra philosopher là-dessus. Mais j'ai pas eu l'impression qu'ils se battaient pas. Je les ai trouvés beaucoup plus passifs sur d'autres rencontres hier. Ils sont tombés sur plus fort, tout simplement.
Puisqu'on a on a le président de l'association des Titi du PSG, Anthony Vivien, on va parler quelques instants d'un Lyonnais, un seul, pas plus, mais quand même, Moussa Dembélé.
Bon, voilà. On met Ferland Mendy de côté.
Ouais, pour ouais,
lui, qui est aussi passé chez nous.
Voilà, mais
70 lits. Hein. C'est con, à trois près, on les amène de l'autre côté.
Moi,
je les amène. Hein. On va chez Ikea et on
en amène trois. On va se débrouiller.
Pour avoir ces
Ils y ont dormi, ceux-là.
On rappelle, hein, c'est la filière du Celtic, c'est ça? Non, il passe par Celtic.
Moussa,
ouais.
Fulham avant.
Ouais, Fulham,
et
Celtic.
Qui est parti relativement jeune, ouais, qui avait fait une année quand même au centre de formation et qui est vite parti en. Un peu apeuré par ce qui se passait, notamment avec Kingsley. Il formait une excellente doublette à l'époque avec Kingsley, et quand il a vu que ça serait compliqué pour
Coman,
Kingsley Coman, Moussa, il s'est dit qu'en gros, il n'y avait pas de place pour les jeunes au club. Et il a pris les devants en allant tenter sa chance en Angleterre, où ça s'est pas trop mal passé. Mais il s'est retrouvé dans un club assez instable au niveau de la santé sportive. Et ce qui fait qu'il a quand même tapé dans l'œil de par ses performances du club écossais où il a cartonné, et ce qui est le cas aussi maintenant de d'Hudson Edouard et de Timothy Weah qui fait d'excellents débuts aussi.
Trois buts hein, pour Timothy Weah, on l'appelle.
De toi à moi, ils ont bien fait pour leur carrière. Quand tu vois que pendant cette période, Paris a fait venir Ressé,
puisqu'ils y ont réussi, on va dire que oui.
Choupo-Moting mais... et tous les autres, ils ont très bien fait.
Moussa Dembélé, je regardais un peu le palmarès hein, de vos Titi d'or, hein, Moussa Dembélé qui a fini sur le podium.
Oui.
En 2011, 2012.
Là, en général, le podium du Titi d'or est très parlant. Et même le top 10, souvent, ceux qui se retrouvent dans les 10 premiers, on a des chances de les retrouver là-haut.
Bon, après, il y a des exceptions, évidemment, Hervé Dongenda qui gagne le Titi d'or en 2011 et porté disparu depuis, mais ça c'est.
Oui, mais il a quand même joué en professionnel. Et Alphonse Areola en 2009, Kingsley l'a eu deux fois, Jean-Kévin Augustin, Hudson Edouard, Moussa Diaby.
Pour revenir sur Moussa Dembélé, en plus, juste hier, j'entendais les débats de journalistes lyonnais qui étaient à l'antenne après le match, qui disaient rendez compte, on a acheté que 8 millions d'euros au Celtic. Alors je crois que c'est à peu près le prix. Pour eux, ils ont l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Et remarque, quand tu vois la perf, effectivement, quand tu vois l'envie, il a pas trop fêté ses buts quand même. Tu sens quand même.
C'est où ça?
Ouais, c'est bon, il est comme ça.
Souvent dans la retenue, c'est quelqu'un de réservé, moi avec ses potes, mais sinon devant les médias. Mais c'est une machine à but et je suis pas étonné et je serais pas surpris qu'on retrouve d'ici quelques mois tout là-haut quoi.
Ah oui. Mmh. Ah ouais.
Bon, voilà. Il a eu du mal. Hein. Il a pris quelques mois là pour s'acclimater à Lyon, mais là ça va.
Il est entré en cours de match et commence à être titulaire.
Et il avait marqué au Parc des Princes contre nous, non? Il n'a pas joué contre nous ou non? Je sais plus.
Si, il avait joué.
Oui, bien sûr. Par contre, le prix de Moussa, c'est 20 millions. Enfin, 22 millions.
Ils ont dit 8 millions. Ils sont trompés. On va les regarder. Ouais. Si nos amis internautes peuvent nous donner ça dans quelques instants, ce serait très sympa. 18h dans Tribune PSG. Vous n'hésitez pas à partager cette émission. Et là, à quel milieu se vouer? Parce que hier, Thomas le bricoleur n'a pas pu faire grand-chose avec Marquinhos au milieu de terrain, avec Dani, le fantôme.
Pauvre Thomas, hein. Voilà. Franchement, on ne lui a pas donné beaucoup de matos pour réussir.
En tout cas... Si, quand même. Bah, je ne sais pas, Leandro Paredes, phénomène. Non mais j'attends de voir, non je plaisante, on sait pas ce que ça va donner.
Leandro Paredes, il a failli déjà arrêter sa carrière à la sixième minute.
Moi je voudrais juste avoir votre avis, vous avez pensé quoi de ces mots? Je vous dis franchement, c'est un peu les coulisses de notre métier. Mais à cet instant du match, moi j'étais plongé dans la rédaction d'un papier sur Alphonse Areola. Et donc je n'ai pas vraiment vu l'entrée en jeu de Paredes.
Moi je vais te dire ce que j'ai dit.
Je l'ai regardé, hein, bien vu.
Ce que j'ai dit à Philippe Sansfourche, un ami et un copain d'RTL. Je lui ai dit, on se donne rendez-vous dans deux mois pour savoir ce que vaut vraiment Paredes. Il n'est absolument pas prêt sur ces 10 minutes.
Je l'ai trouvé.
Il se pose devant la défense, il sait pas quoi faire du ballon. Voilà. Il joue tout en arrière, il y est pas. Il n'est pas prêt du tout.
Ce qui est normal.
Mais oui.
Ce qui est normal.
Il vient juste d'arriver. On est dans un match quand même compliqué.
Il a vu le début du match.
Faut se rappeler du premier match de Kerrer.
On ne peut pas réellement juger sa prestation, il a joué même pas 10 minutes, on juge ce qu'il pourrait apporter, il peut pas apporter pour l'instant et c'est normal.
Il a joué que 10 minutes.
Souvenez-vous, n'oubliez jamais que Bernat a marqué en Ligue des Champions. Dès que vous doutez d'un joueur, rappelez-vous ce moment.
On peut pas juger ce qu'il a fait en 10 minutes, c'est impossible.
Je suis d'accord, mais sauf qu'on sent quand même que dans son football, il n'est pas prêt pour ce genre de match.
Franchement, moi j'ai trouvé justement dans ses touches de balle, dans sa conduite de balle, plutôt intéressant. Il a pas vu depuis décembre.
Ouais, non, mais je sais. Mais j'en suis conscient.
Ne fait pas son procès.
Vous dites qu'il n'a rien apporté en 10 minutes. C'est pas possible qu'il apporte quoi que ce soit. Mais tu veux qu'il fasse quoi, tonton? Il joue en 6. Il vient dans un match compliqué.
On ne fait pas le procès de Paredes.
Je suis pas là pour faire le procès.
Non, mais c'est des premières impressions.
Moi, je pense
qu'il ne faut pas avoir d'impression.
Oui, on ne peut pas avoir d'impression.
Je pense que son recrutement est arrivé trop tard, en tout cas.
Ça c'est sûr. Mais attention, après il reste encore deux matchs. Même ce match de Coupe de France là, qui fait rigoler tout le monde contre Villefranche-Beaujolais.
Bah, c'est le meilleur. Et bah,
pour lui, ça va être une séance d'entraînement grandeur nature là. C'est bien.
Il faut le faire jouer 80
minutes.
Donc
voilà, il va jouer. Il va peut-être jouer une mi-temps aussi contre Bordeaux. Bon, peut-être qu'il va jouer une demi-heure Old Trafford. On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Franchement, on ne sait jamais. En tout cas, au milieu de terrain. Donc on a vu ces deux-là. On a vu Draxler aussi au milieu un petit peu perdu dans certains moments. Et on nous annonce le retour de Verratti. Donc déjà.
Ah bah attends, c'est. Aller là-bas sans verre, enfin aller avec l'équipe d'hier soir, là faut fermer les yeux
suicide.
Et c'est, ça va être très difficile. J'espère que Verratti sera de retour. Moi j'espère, je vais pas anticiper le débat suivant, qu'un autre sera de retour aussi.
Mais tu dis ?
Voilà.
Non mais
j'essaie.
Oh, bah attends,
ça grêle un petit peu sur les milieux de terrain, sur la prestation d'Alves. Alves par exemple au milieu de terrain, parce que tout le monde veut que ça s'arrête, c'est ça.
Bah, oui.
Mais il faut qu'il arrête de jouer tout court.
Il y est plus physiquement, on est d'accord.
Et pourtant, moi je croyais en sa Grinda, mais non. En fait.
Non, c'est un retour de blessure, faut pas oublier. C'est un vétéran, il a 35 ans, c'est bien ça. Il revient après 8 mois d'absence.
On fait rentrer moins différemment, on fait quelque chose.
À son âge, c'est dur de revenir. Donc il n'y a pas de miracle, en fait. Il n'y a pas de miracle, c'est ça.
Non, mais pourquoi on ne fait pas le procès des mecs qui n'y arrivent pas en ce moment? On comprend très bien que, on a compris que Meunier, il avait du mal au début de la saison parce que il avait pas eu de pause avec la Coupe du Monde. On remet pas leur talent en cause. On constate seulement. Et Daniel Alves, on peut, effectivement, tu l'as bien expliqué. Quant à son âge, on revient de 8 mois de blessure. C'est hyper difficile. Il faut quasiment 1 an pour revenir. Donc ça, on a bien compris. Sauf que là, il y a des urgences et qu'aujourd'hui, il peut pas servir.
C'est vrai. Et puis on a l'impression que dans le même temps, Tourelle n'aime pas Meunier. Il y a une cassure, il y a un truc qui s'est passé. Est-ce que c'est à Naples où Meunier était en grande difficulté, que voilà, il y a un petit truc qui s'est rompu entre l'entraîneur et Thomas Meunier. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a un peu disparu de la circulation et dans les grands matchs, il n'apparaît plus.
Oui, Émilie.
Alors, effectivement, ça grêle et vous pourrez aller suivre. Il y a des très bons commentaires. Je peux pas tout lire, les gars, mais vous êtes formidables.
Vas-y.
On est là jusqu'à dimanche matin. Il y a Jean-Claude qui nous dit Meunier. Et donc, le nom de Meunier revient beaucoup en disant mais pourquoi il ne joue pas, etc. Il y a Patrice qui nous dit Lo Celso, quelle erreur, mon Dieu. Et là aussi, encore son nom ressort. Jamel nous dit aussi pourquoi Areola alors qu'on a Buffon incompressible. On se pose la question aussi de la place.
Chacun son tour. Ça va être chacun son tour. Donc là, je pense qu'Areola va faire Villefranche et après derrière Bordeaux, Gigi et Manchester. Je pense que c'est dans le.
Ils sont plusieurs à poser la question.
Ça sera qui pour Manchester?
Ah oui.
Et alors, il y a Baptiste qui nous fait une prose et j'aime bien. Chaque année, on gère mal notre effectif. Quand tu achètes une caisse de Petrus, ce n'est pas pour boire une bouteille avec une Flamencush. Il faut donc choisir les matchs pour Neymar, notre Petrus.
C'est pas mal, j'aime bien.
Oui, bah, Neymar à propos de Petrus, il fête quand même son 27e anniversaire. Alors,
on va en parler. Garde-en un petit peu sur
la soirée. Mais il a raison.
Et la soirée promet d'être. Autant couleur.
Ah, mais alors,
garde le truc.
On s'en fout. Ouais.
Garde le truc.
C'est
bien après Neymar. Neymar, je vais en entendre parler après. Parce que moi, je voudrais glisser. Parce que là, milieu de terrain, ok, Paredes, on vient d'en parler. Ok, Draxler, on en a parlé. Ok, Alves, on en a parlé. Ok, on a parlé.
Verratti,
Di Maria aussi. Ça, par contre, lui, tu sens qu'il a l'odeur du sang qui arrive.
Bah oui.
Manchester, ça l'excite.
Bah, c'est un grand joueur. C'est un joueur qui a du talent. Il a l'air plutôt pas mal en ce moment.
Et il s'est mis les doigts dans la prise depuis quelques temps.
On l'a même retrouvé souriant. Il nous a fait un geste après son but qui était inhabituel. On ne sait pas si c'est le vol du goéland ou enfin ça voulait dire quelque chose.
Ou un mariage oriental, mais on a vu.
Voilà, c'est ça. Mais en tous les cas, c'était bien. Et heureusement qu'il est là. Parce que c'est à peu près le seul qui est à son niveau au milieu de terrain.
Et alors, il y a cette rumeur persistante. Et si Thomas Tuchel rappelait désormais Adrien Rabiot, je le lâche puisque le FC Rabiot est dans ce studio. Vous ne l'avez pas vu depuis tout à l'heure, mais Anto Vivien, notre ami des Titi du PSG, est venu avec un maillot dédicacé. Alors, je vous avertis tout de suite, c'est le sien. Voilà, c'est le sien, c'est pas pour l'offrir ou quoi que ce soit, mais il est venu en soutien à Adrien Rabiot. Il l'achète tout de suite. En fait, on vous en parlera du prix tout à l'heure, les enfants, bien sûr, tonton Steph, hein, de président du fan club de Adrien Rabiot. Est-ce qu'il est possible? Alors, le coach a dit non, j'ai pas demandé à ce qu'il revienne, mais quand on voit que tu n'as pas recruté au mercato.
Il est malin, Thomas Tuchel. Il le crie ou il fait passer des messages. Quand c'est utile. Là maintenant, il semblerait au conditionnel qu'il ait obtenu gain de cause sur ce dossier. Donc le retour, devrait se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc il n'a pas besoin d'insister en conférence de presse là-dessus. Il veut pas brusquer les choses parce qu'il sait que c'est pas non plus simple, c'est pas fluide comme histoire. Et puis il y a quand même quelque chose, c'est que dans quel état est Adrien en ce moment?
Mais ce qu'on il n'a pas joué.
Il n'a pas joué depuis deux mois, un peu comme Leandro Paredes. Hein, et
il a eu deux deuils familiaux. Alors, oui. Il a eu franchement tout le public qui lui est tombé dessus. Nombreuses insultes sur les réseaux sociaux, le directeur sportif qui lui a craché dessus au micro, de nombreux débats radio-télé autour de son cas et où il s'est fait un petit peu découper en quatre. Ici aussi, on le dit, tonton, je prends les responsabilités, je le dis aussi. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il sera prêt pour Manchester? Moi, j'y crois absolument pas. Je trouve que, voilà, je vous pose la question. Est-ce qu'Adrien Rabiot va revenir? Je me retourne d'abord vers les défenseurs d'Adrien et d'abord vers Anthony Vivien.
Bon, je sais pas si je vais être très objectif parce qu'on est quand même amis en dehors des terrains. Adrien, faut savoir qu'il est amoureux de son club depuis toujours. Il s'est toujours défoncé du mieux qu'il a pu. Alors, il y a eu des fois du moins bon, mais surtout du très bon. Et dans une période actuelle, je trouve qu'il serait anormal de ne pas le rappeler et que le club reconnaisse certaines erreurs. Adrien affectionne énormément le public, le COP, etc. Et c'est pas ça qui, toutes les insultes ou autres qu'il peut y avoir, qui l'empêcheront d'être très fort sur le terrain. Et il s'entraîne au mois de janvier. Certes, on le voit pas en compétition, mais il s'entraîne. Donc
voilà. Il serait prêt mentalement bien à y retourner après ce
bien
qui
sûr.
S'est passé.
Toi, bien sûr, pour montrer à tout le monde que.
Je pense qu'il est costaud dans sa tête, ce garçon.
C'est voilà, il y a eu certaines épreuves qui ont été dévoilées dans sa vie familiale, là, qui se sont déroulées ces dernières semaines, qui n'ont pas été évidentes pour lui, pour ses proches, mais justement. C'est des choses qui rendent plus fort et Adrien a passé énormément d'épreuves difficiles depuis qu'il est professionnel et. Donc voilà.
Il a pas décroché mentalement. Hein. D'après ce qu'on dit autour de lui, il a toujours envie d'en découdre. Il a pas fait une croix sur la fin de saison en disant cette histoire ne me concerne plus, le PSG ne me concerne plus. Non, il est toujours impliqué. Alors c'est vrai, d'une manière forcément un peu différente.
C'est bizarre, vous êtes en train de me dire ça, mais sauf qu'il veut pas prolonger avec son club formateur.
Et non, mais il y a pas d'ambition, c'est pas incompatible. Mmh. Voilà, il a une liberté contractuelle qui est ce qu'elle est. Mais alors, il y a quand même, je rappelle quelque chose, c'est que de manière officielle et claire, à ce jour, rien n'est éclairci sur son avenir, du moins de manière officielle. Je veux dire, on ne sait pas s'il s'est déjà engagé avec un club ou pas, mais le fait est, c'est qu'il est encore salarié du Paris Saint-Germain jusqu'au mois de juin, et que comme tu disais, Anthony, il est toujours amoureux de ce club. Et bon, voilà. Après, c'est sûr dans quel état physique aussi il est actuellement après deux mois de sans compétition. Ça, c'est
et
une autre
un
question.
Autre argument qu'il ne faut pas non plus mettre de côté, c'est que les joueurs du vestiaire souhaitent son retour.
Ah oui, mais ça on l'a compris. On va juste voir avec les réseaux sociaux et après derrière tonton et après. Alors je vous le dis et je suis un peu dans son état d'esprit. J'ai mon marin d'eau douce, mon petit bonnet, mon petit canard. Voilà, il est là, Joss, qui est aussi dubitatif que moi peut-être sur ce qui est en train de se dire. Je veux d'abord écouter les internautes, après tonton Steph et après on vient de voir Joss. Sur Rabiot.
Alors, il y a Ako qui nous dit il était aussi amoureux de l'équipe de France. Trois petits points. Julien nous dit s'il est amoureux, alors pourquoi il peut encore prolonger. Jean-Philippe nous dit.
Que vient de laisser entendre Ronan, c'est que rien n'est annoncé, rien n'est figé.
Non, mais je pense que là, Véronique Rabiot, maman et conseillère, a quand même été très claire sur ce sujet lors de sa rare prise de parole.
Sur RTL.
Et effectivement, elle a dit qu'il n'était pas question qu'il change d'avis et qu'il prolonge finalement au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est a priori exclu. Hein, quand
même. Il y a Jean-Philippe qui rajoute « Rabiot joue pour l'argent et donc pas avec son cœur, c'est dommage ».
Beaucoup de joueurs de foot qui jouent pour l'argent.
C'est quand même quasiment le mec le moins bien payé au PSG. Hein.
Merci.
Pour un mec qui joue pour l'argent...
Non, je vous laisse faire. Voilà.
Après, je lis. Hein.
Oui, c'est un des plus petits salaires du club.
Ouais, je vais le plaindre. Il y a Yann Tatou qui nous dit, franchement, j'étais pas trop pour qu'il revienne, mais là, avec le manque de milieu, pas le choix. Et Cédric nous dit, mais Rabiot fait ce qu'il veut, il est dans son bon droit de ne pas prolonger, il a donné au club, il veut changer d'air, il est où le mal? Moi, j'aimerais son retour.
Donc c'est très mitigé. Tu peux récupérer les adresses qu'on leur envoie des maillots?
Non, ici, un. Pour
alors, ne lis pas tout. D'accord, ne lis pas tout. Alors, ne lis pas tous les commentaires.
Stéphane, dans cette émission, tu l'as dit, l'histoire est annoncée, tu l'as vu. C'était un petit peu Stéphane voyance. Tu savais ce qui allait se passer. Tu savais quand Théo Henrique allait se planter. Tu savais que le PSG allait se retrouver en manque de milieu de terrain.
Exactement.
Et que, l'histoire était en train de s'annoncer. Par contre, Thomas Tuchel a gardé le fil. Il y a une chose, ce qu'on comprend tous.
Je pense que Tuchel appréciait et apprécie encore Adrien Rabiot.
Troisième capitaine de l'équipe.
Justement, c'est un mec qui est aimé dans le vestiaire. La sortie de Thiago Silva en disant qu'il était indispensable et qu'il serait indispensable à n'importe quel club, ça prouve que le vestiaire l'a pas lâché. Donc il y avait toutes les raisons. Après, je vais pas ici redéfendre Adrien Rabiot, je l'ai trop fait et demain matin ma chronique lui sera consacrée. Donc
ici c'est France Bleu Paris à 8h10 en podcast et en vidéo sur Dailymotion et YouTube.
Exactement. Voilà, moi je trouve que c'est un juste retour des choses. Les footballeurs se sont battus depuis 1968 pour avoir des contrats et pour qu'ils soient respectés. Il respecte son contrat. Il a décidé de changer de club pour des raisons qui lui sont perso. C'est pas pour ça qu'on doit l'envoyer au bûcher. Il est en contrat, il est payé et il sera payé jusqu'au 30 juin. Eh ben, profitons de son talent qui est grand et surtout en ce moment. On aurait pléthore de milieux de terrain.
Oui,
on pourrait se permettre de le laisser de côté. On a viré Lo Celso. On n'a pas donné sa chance à la Sanadia, ou en tous les cas, il était au bout du truc. Verratti est blessé.
Adli, Lorenzo Calegari.
Exactement. Alors, il reste quoi? Il reste Adrien Rabiot qui est tout sauf un mauvais joueur. Je veux bien qu'on lui reproche plein de choses. Mais on est arrivé à dire que c'était quasiment une merde. Hein. N'ayons pas peur des mots. Moi, ce que je lis sur les réseaux sociaux, c'est quand même de la haute philosophie. Mais on a l'impression que ce mec-là, il est arrivé avec un passe-droit pour pouvoir jouer au Paris Saint-Germain.
222 matchs avec le Paris Saint-Germain. Émilie, quelques mots et après Joss.
Non, juste rapidement. Moi, je suis pas pro Rabiot et on le sait. Par contre, là, je vais avoir une grosse parole de supportrice vendue. Si il est capable de faire un truc à Manchester, s'il est, vas-y mon gars, fonce. Par contre, te plante pas. Moi, c'est juste dans le mental et dans l'esprit.
Ça veut dire quoi, te plante pas?
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a trop de jeux, en fait. Enfin, trop de jeux, de communication, j'entends. Outre lui, ce qu'il a envie de faire, etc. Mais je trouve que, par le biais aussi des médias, etc. Mais du coup, on est en dents de scie sur Rabiot. Là, aujourd'hui, tout le monde, en tout cas supporter, le pousse un peu vers l'extérieur. Sauf que n'oublions pas que, sportivement, moi, égoïstement, s'il peut me servir à quelque chose, vas-y, mon grand, déroule, quoi. Mais du coup... Faut qu'on fasse gaffe au truc en dents de scie, tant dans la com que dans le sportif, où en fait là on se perd.
Non, mais je pense que le fait qu'on convoque là à nouveau dans nos discussions le cas d'Adrien Rabiot, c'est parce qu'il y a un vide considérable. Normalement, là le joueur, il a été mis de côté par sa direction pour une durée indéterminée. J'ai bien pour une durée indéterminée quand même, parce que quand on reprend les propos d'Antero Henrique, le seul dirigeant en fait à s'être exprimé officiellement à ce sujet. Eh bien, il a dit, il va être sur le banc, mais pour une durée indéterminée. Donc, c'était pas une manière claire, nette et précise de dire, on le revoit plus de la saison. Hein.
Je vais entendre Joss, qui t'a entendu tous les arguments. Effectivement, à toi, le retour, à ton avis, de possible, il va revenir dans le groupe. C'est annoncé. Thomas Tuchel joue et slalom entre tout ça. À ton avis, bonne ou mauvaise idée?
Dans tous les cas, pour être direct, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée mais il y aura deux phases dans ce que
si
je vais dire.
Plus près, moi, je me lèverai pour t'embrasser.
Ah, c'est beau, il y a de l'amour dans cette émission.
Ouais, mais de loin, c'est mieux. Non, mais honnêtement, au vu de l'effectif, au vu des manques, bien sûr qu'il faut qu'il revienne. C'est un joueur qu'on a qui est sous contrat, autant l'exploiter jusqu'au bout. Maintenant, il y a quand même des choses. Il y a des choses qu'il faut remettre quand même dans leur contexte. Quand on vous écoute, on aurait dit que c'est un joueur qui était surperformant et qu'on a dit va de côté parce que tu veux pas prolonger. C'est pas ce qui s'est passé. Il était mauvais. Il y a eu une sanction qui a été prise par rapport à ses erreurs, par exemple à Marseille, qu'il a pas voulu accepter.
Il était mauvais, quand ça
va. La période où il sort de l'équipe, c'est parce qu'il est mauvais et qu'il y a des mauvaises relations aussi avec son entraîneur. Il respecte pas les règles, il arrive en retard, il accepte pas forcément les sanctions. Il y a aussi un gros problème dans sa communication, malheureusement. C'est bien de pointer les erreurs du PSG, c'est bien. Depuis tout à l'heure,
on l'a entendu, Adrien Rabiot.
Non, mais justement, c'est ce que je dis.
Justement, on peut pas lui reprocher sa communication.
Il a une tribune, personne n'empêche de parler, il pourrait communiquer. Justement, depuis le début de l'émission, on arrive à pointer les erreurs de chacun. Mbappé, a été moins bon, etc., etc. Rabiot, personne le dit quand il est moins bon. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est un petit peu protégé. Je suis désolé, les amis, il a été moins bon ces derniers temps.
Il n'a pas été rayonnant au mois d'octobre.
Il a été moins bon.
Ça, il fait pas. Il fait un bon début de saison.
Un bon début de saison.
Il est très bon.
À partir de octobre,
il faut changer un peu. Et puis, ouais, non, mais effectivement,
voilà, quand il sort de l'équipe, c'est à cause de ça dans un premier temps. Donc c'est tout ça. Et puis son manque de communication, comme tu le dis, le fait de.
Mais non, mais ça c'est pas un reproche. C'est un fait. Il est salarié du PSG.
Tout à l'heure,
il n'a pas la possibilité de s'exprimer.
Tout à l'heure, tu as dit que justement le PSG devait peut-être aussi reconnaître ses erreurs. Mais pourquoi lui devrait pas aussi reconnaître les erreurs qu'il a commis?
C'est vrai qu'on attend quand même de sa part une communication.
Bah oui.
C'est qu'à un moment donné, fais pas l'autiste, prends la parole, dis quelque chose.
À un moment donné, même Neymar, qui en avait marre des rumeurs de transfert, a pris la parole. Ouais. Qu'est-ce qui l'empêche, Rabiot, de dire, bah écoutez, ok, j'ai peut-être eu un mauvais comportement, mais je suis prêt à aller au bout de mon contrat.
Saison et
voilà.
On y va,
et puis c'est tout, c'est clair.
Mais de quel mauvais comportement, ça je comprends pas. De quoi devrait-il s'excuser?
L'exemple de Marseille,
c'est
que t'en penses?
Mais l'histoire de Marseille,
tu sais ce qui s'est passé après, là. Sa maman qui va foutre le bazar sur le match de Lille parce qu'il a pas joué. Elle fout le feu dans tous les bureaux du PSG pour aller crier contre Maxwell, contre Jean-Claude Blanc, en plein milieu du fair play financier parce que son fils n'a pas été titularisé. Enfin, on sait quand même ce qui s'est passé. On n'est pas complètement fou. Il y a quand même une relation qui est très spéciale entre les deux. Là, maintenant, sportivement, on a besoin de lui. Ça,
non,
c'est clair.
Non, mais à Marseille, si on veut reparler de ce qui s'est passé à Marseille.
Après, on va pas faire toute l'émission sur Rabiot.
Il a peut-être eu le sentiment de trinquer à la place d'autres qui n'ont pas, qui bénéficiaient de certains passe-droits. Par exemple.
Pourquoi?
Mais parce que lui, il est entré en jeu à une demi-heure de la fin, il a marqué et il est passé à autre chose.
Mais pauvre chou. Non, mais c'est très bien lui pardonner. Quand il a froid, faut lui dire, bah, c'est pas grave. Quand il a si, faut dire ça. Mais attendez, faut dire quand il est pas bon. Faut le dire à un moment donné, c'est tout.
On arrête.
Bon, bref.
Voilà. Mais oui, mais il y a débat. Mais en tout cas, faire monter l'émission sur Rabiot.
Tout le monde veut son retour.
Tout le monde est d'accord pour son retour. Voilà.
C'est essentiel, c'est clair. Voilà. On veut son retour et en tout cas, il est le bienvenu pour.
Retour de son poste.
À son poste, effectivement. Voilà. Et si il monte mes 6, qu'il joue 6 aussi.
Bah non, il veut pas.
Faisons-le. Il veut pas. Dans cette émission.
Mais moi, je serais ravi. Voilà. Il veut parler à personne.
Bah, il nous parlera.
Il veut pas jouer.
Il sera avec des amis. Il va venir.
Il y en a deux qui sont pas forcément grands fans. Mais vous, vous serez là.
Moi, j'adore Rabiot. J'adore les gens du plaisir.
18 dans Tribune. Qui est le Titi? On fait juste une petite pause. Trois mots sur une autre pépite qui est partie. Alors là aussi, avec un drôle de caractère, le petit Adli qui s'est en allé du côté de Bordeaux. Alors le Paris Saint-Germain l'a vendu. Bon, quand même 40% la revente. On sait jamais si jamais il brille du côté de Bordeaux. Perte, pas perte. Mauvais choix du joueur, du club.
Seul l'avenir nous dira s'il s'agit d'une réelle perte. Pour le voir jouer toutes les semaines, Yacine Adli, puisqu'on parle de lui, a énormément de talent. Il a été élu il y a un an de cela, on lui remettait le Titi d'or, donc ce qui est pas rien. Maintenant, c'est vrai que tous ces jeunes qui ont beaucoup de talent aimeraient que les choses arrivent rapidement. Peut-être un peu trop parfois, mais c'est vrai que là, il était vraiment pas utilisé du tout. Donc le talent n'a pas d'âge. Et je trouve qu'on a énormément de mal au PSG avec ça.
C'est un problème. Non, mais ce qui est l'âge de ce club.
Non, mais ce qui est très étonnant
du football français,
très étonnant cette affaire. Moi, je dis très très honnêtement, je n'ai pas le dessous des cartes là dans cette histoire. Mais pourquoi est-ce que le PSG avait l'obligation de le transférer? On aurait pu aussi imaginer un prêt.
Un peu comme Tiwa.
Un prêt éventuellement avec option d'achat, pourquoi pas. Est-ce que Paris avait besoin de liquidité à ce point-là?
Apparemment, c'est la différence qu'il y avait entre ce qui était prévu et Paredes. À 47, et ils étaient autour de 40, et ils ont récupéré 5-5.
C'est peut-être la seule explication possible. Mais c'est très étonnant comme management quand on le fait signer professionnel au mois de juin dernier. Avec un très très beau salaire. Pour un jeune joueur de 18 ans, c'est un salaire à 60 000 euros brut, c'est quand même phénoménal. Hein, et pour 6 mois après, le transférer. C'est étonnant.
Ce qui est désolant ou alarmant, je sais pas quel adjectif employer, mais c'est le signal qu'on envoie à tous les autres jeunes qui, eux, avaient voté pour lui en se disant c'est Yacine qui mérite demain d'être le Titi à être professionnel au sein de l'effectif pro du PSG. Et là, il s'en va quelques mois après. Donc, quel signal on envoie? Et même avec une profondeur de banc qui manque cruellement au PSG, notamment au milieu de terrain, on n'utilise pas les jeunes.
Dans 5 ans, on le retrouvera avec Barcelone en Ligue des Champions. On dira, tiens, celui-là, il nous a échappé. Il y avait 70 lits.
En tout cas, c'était pour une petite parenthèse sur lui, puisqu'il est parti à Bordeaux, on le rappelle. 18 ans dans Tribune PSG. Qui est le Titi? Qui est le Titi? Alors, on va le savoir demain.
Oui.
L'association des Titi va remettre le Titi d'or. Voilà, on rappelle juste le règlement. Ouais. Comment on devient Titi d'or?
Déjà, c'est un trophée qui est inédit, qui est original depuis 2006, puisqu'il est remis au sein du centre de formation suite au vote des pensionnaires des fameux 70 qui sont licenciés au centre de formation dès leur entrée jusqu'à au National 2. Il y a même des joueurs comme Colin Dagba, Alex Georgène, qui sont parfois dans le groupe professionnel qui aussi ont voté, Stanley, et qui donnent trois noms au système un peu ballon d'or. Le premier marque 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 1 point, et c'est sur l'année civile, donc de janvier à décembre. Et puis après, il y a un calcul, et puis celui qui récupère le maximum de points remporte le Titi d'or.
Petite question, non, parce que moi je découvre un peu le règlement quand tu nous l'expliques. Est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi concours de popularité? C'est-à-dire c'est souvent un mec sympa qui gagne.
On pourrait assister à ça si le vote était fait entre dans le vestiaire ou entre deux cours. Là, ils sont pris chacun individuellement. On se pose, on prend le temps et c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain, en dehors du terrain. Et voilà. Donc c'est vrai que souvent la part belle a été donnée à des attaquants, mais ce qui sera peut-être pas le cas cette année.
La part d'Anthony Vien. Demain, ce soir on a les trois sur votre site.
Le quatrième. Okay, il reste le quatrième à mettre et demain matin il y aura les trois premiers et dans la journée donc vous saurez qui est élu.
Tu peux nous rappeler ceux qui sont cinquième, sixième?
Cinquième de mémoire, donc Asdine Toufiki avec Météan Guclu, là qui donc Météan qui depuis retour du Qatar est dans l'effectif professionnel. Il a tapé dans l'œil de Thomas Tuchel, c'est une très bonne chose. Voilà. Et il serait temps qu'un attaquant issu du centre de formation s'impose, ce qu'il faut remonter à je sais pas qui, Mathusalem. Mais donc voilà. Et dans les années 80, tu peux y aller.
Ça fait longtemps qu'un attaquant.
On peut pas dire que les Pascal Numa, Mboma, même Anelka, plus des fulgurances.
Peut-être Numa, oui, effectivement. Pascal Numa, ouais. C'est
Pascal,
peut-être celui qui.
Que l'on salue.
Voilà. Après, il y a eu David N'Gog, mais.
Oui, mais après, ceux-là, ils n'ont pas.
Loris Arnaud.
Loris Arnaud, je l'ai commenté au micro de France Bleu Paris, Loris Arnaud, mais oui, pour un PSG, Bastien.
T'as pas fait Numa?
Non, pas Numa, je l'ai croisé. On s'est découvert avec Pascal Numa, c'est un sacré personnage. Une belle personne, un fou.
Mais voilà, Asdine Toufiki et Guclu, donc 5e Ezeko. Après, on a 7e Maxen Capo, le capitaine des U19. On a Abdallah Yézien, Yacine Edli, 9e. Et puis, on avait 10e Ezeko, Garrison Innocent, le gardien de but U19 N2.
Qui fait des petits passages en ce moment.
Avec Arnaud Calimendo, le meilleur buteur des U19.
Et donc, Kaïs Ruiz peut être sur le podium, par exemple.
Il n'est pas dans le top 10.
Ah, d'accord. Voilà. Ah, ok.
Ah, c'est intéressant. Intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les 3. Voilà, c'est l'info. On l'a réussi, t'as réussi, bien joué.
C'était
la mission de Ronan.
Il a eu une blessure quand même sur plusieurs mois qui a beaucoup joué sur le premier semestre 2018. Donc voilà.
Oui, Émilie, tu me fais signe depuis tout à l'heure.
Oui, non, mais il y a Joanie qui nous a sorti une bonne vanne, parce que la vanne de tonton sur les 70 lits résonne bien. Et Joanie nous dit avec 70 lits, ça fait quand même beaucoup de titi d'or.
Allez hop, merci. 18h24, celle-ci elle est passée, bravo à Joanie. Notre auditeur et internaute, je vous rappelle que si vous partagez cette émission, il y aura le jeu Pro Cup à gagner. Et juste déjà pour vous faire un petit teasing, vous annoncez l'invité de la semaine prochaine, puisqu'il s'agira de Marcus Kaufmann, journaliste à SoFoot, qui a écrit Thomas Tuchel, Faire grandir Paris, une biographie pour et aussi beaucoup de techniques, des schémas, etc. pour un peu parler de Thomas Tuchel, l'auteur de ce livre sera avec nous et vous pourrez le gagner la semaine prochaine. On a une semaine pour le lire. Voilà. Hein, c'est juste le petit message pour l'équipe. Là. C'est bien gentil d'être malade et de prendre des antibiotiques.
Et après, t'as livres de poche, là, comme quand on était à l'école.
Joyeux anniversaire, Ney.
Oui.
Et oui, qui est invité autour de cette table pour l'anniversaire de Neymar?
Personne.
Personne. Ne tombons pas
dans ça. Moi, je veux vous dire
le pavillon Gabriel, 500 personnes.
Mais il a raison.
Une star mondiale.
Il a raison.
Il est sponsorisé. C'est pas lui qui paye.
On lui paye son anniversaire.
On lui paye son anniversaire. Il a 27 ans, c'est un âge merveilleux. Il est jeune, amuse-toi. Fais venir tes potes.
Fais du freestyle avec tes béquilles.
À 48 heures d'un match de foot, même si c'est de la Coupe de France et même si c'est Villefranche-en-Beaujolais.
Mais
c'est lui, c'est son anniversaire à lui.
Oui, mais il invite toute son équipe, son staff.
Les mecs, à 23h30, ils s'en vont. et ils vont se coucher.
Et il n'y aura plus Berchiche complètement ivre. Mais oui, arrêtons.
Est-ce qu'on a des infos là sur le... Je me retourne vers copain du Parisien, Ronan. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cet anniversaire?
Soirée, comme l'a dit Steph, parrainée, sponsorisée par une marque de boissons énergisantes, qui a déroulé un peu, qui a déjà installé ses panneaux publicitaires dans la salle du pavillon Gabriel. Mmh. C'est un événement, c'est ça, privé et en même temps marketing. C'est un peu, on est un peu à la front, voilà, à la limite entre ces deux sphères. Mais c'est un peu à l'image de Neymar. C'est vrai qu'il a, bah, il a le sens de la fête. Il se laisse pas abattre par sa blessure. Donc ça, je trouve ça positif. Et ça, après, voilà, est-ce que ses coéquipiers vont savoir se tenir un peu tranquille et puis regagner leur domicile à une heure voilà correcte?
Il y a que Sarko Verratti qui peut rester, c'est tout.
Alors attendez, parce que juste un truc. Cette année, les portables vont être bloqués à l'entrée.
Très bien,
parce
ça.
Qu'on se rappelle que l'an dernier, Madame Di Maria avait mis la petite vidéo de Youri Berchiche qui tenait pas forcément bien l'alcool. Il était un peu fatigué après la soirée. Tout le monde s'était un petit peu moqué de lui et se demandant à ce que ça allait donner. Juste à noter que du côté de Villefranche en Beaujolais, notre copain Cédric Guillou de France Info est allé rencontrer les joueurs et Antoine Philippon, que vous pourrez entendre demain matin, le gardien. Oui, il faut commencer à apprendre les noms des joueurs de Villefranche. Antoine Philippon, voilà. Il a dit qu'ils s'en foutaient complètement. Il fait, de toute façon, ça aurait été nous ou un autre club. Il aurait quand même fait la
Philippon,
fête.
Il y a eu un Philippon, entraîneur du Paris Saint-Germain.
Ouais. Ah ouais.
Mais ouais, il y a très, 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 très longtemps.
D'accord.
Voilà. Et moi, Pierre, deux ans prénom.
Et Jos, sur l'anniversaire de Neymar, t'es pas invité?
Je suis pas invité.
T'es déçu?
Bah non. C'était prévisible, je pense.
Voilà, bon, c'était juste un petit clin d'œil. Oui.
On parle du nez?
Bah vas-y, parle du nez, je t'en prie.
Moi, j'ai une info. C'est quand même une info importante médicale sur l'ami. Alors d'abord, confirmer que le trait de fracture est au même endroit que celui de l'année dernière. Donc ça, c'est très inquiétant. Et dire que s'il ne se fait pas opérer, de source médicale, il prend des risques pour la suite de sa carrière.
Mais bien sûr.
Ça va jusque là. Donc le garçon, là, pour l'instant, il est l'enjeu de beaucoup de choses. Mais sachez que la sagesse serait qu'il se fasse réopérer.
Mais merci, c'est pas ce qui est parti dans le protocole, là. C'est pas ce qui a été décidé pour Neymar.
Pour l'instant, oui, c'est ce que... Voilà.
C'est
on
des
pense
décisions
plutôt Brésil,
court-termistes, en
et
plus.
On pense Copa América. Je pense que là,
pense
le garçon, on met sa santé en jeu. Et c'est très, très compliqué. Et c'est une vraie info médicale.
Alors, est-ce que ça valait le coup de mettre autant d'argent sur un seul joueur plutôt que d'en acheter 3 ou 4 et de ne pas se retrouver avec un problème de sous-effectif en janvier.
On ne peut pas raisonner comme ça. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs du monde.
Déjà rentabilisé en
marketing,
j'imagine.
Oui, non, mais on ne peut pas raisonner. Là, on parle de médical et médical. Le garçon.
Je suis désolé, c'est un débat qui peut se poser. Pourquoi avoir peur d'affronter cette question?
Plutôt d'avoir 3-4 joueurs de niveau international et d'avoir un sous-effectif.
Pour l'instant, Neymar a mis un coup de projecteur incroyable. Mais pour l'instant, il est en train de faire 2 demi-saisons.
Oui, non, mais moi, je parle juste de sa santé et je dis que en ne se faisant pas opérer, il prend un risque pour la suite de sa carrière. Après, on peut avoir le débat de savoir si les 400 millions utilisés pour Neymar et Mbappé, on pouvait
faire mieux avec. C'est un coup de poker, qu'ils sont en train de tenter, mais avec c'est pas uniquement la sphère brésilienne qui a opté pour cette décision médicale.
Il a quand même insisté un peu plus que le Paris Saint-Germain, qui aurait souhaité peut-être qu'il se fasse réopérer. Parce qu'imagine qu'ils sortent de cette période avec une vraie faiblesse et que ça se sache, tu refileras plus Neymar pour 300 millions au Real Madrid. C'est terminé, t'oublies. Donc les risques, ils sont quand même très très importants et on minimise ça et je pense qu'il va falloir
plomber le truc là. Plomber l'émission.
Non mais il y a une prise de risque. On le savait. C'est enfin quand les deux options ont été évoquées, traitement par PRP, injection de plaquettes, tout ça, et l'opération en bonne et due forme.
Bien
c'est vrai qu'il y avait une option qui était un peu plus risquée, c'est-à-dire ce traitement là, ce protocole non chirurgical.
Exactement.
Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher.
Exactement,
du tout.
Et voilà.
On peut être de retour à la case départ dans 3 mois aussi. Hein. Ça,
c'est on est d'accord.
Mais bon. Donc voilà. Donc c'est l'investissement initial.
J'ai pas voulu casser l'ambiance. J'ai pas voulu casser son anniversaire. Bon anniversaire au Ney, bien sûr.
Évidemment.
On va anticiper le 5 février.
Il danse un petit peu. Mais la gigue, c'est avec les béquilles.
Bah, c'est un sportif de haut niveau. Lui, il peut déjà faire des choses même avec des béquilles.
La capoeira.
Voilà, exactement.
Allez, on va parler d'un autre qui va... C'est sa fête en ce moment.
Alors là,
Mercato, la fête à Antero. Et oui, bonne fête Antero, bonne fête Enrique.
Cata, ce mec. Cata.
D'accord, ok, on va aller.
Cata, tous les mercato ratés. celui de cet hiver.
Je vais essayer de le sauver. Il est quand même dans le deal pour Neymar. Il est quand même dans le deal pour Mbappé, rassurez-moi.
Non,
il
a
quand même
fait venir les deux. Pour Neymar, ça s'est joué encore plus haut.
D'accord.
Et ça
s'est joué. Pour moi, c'est pas à son niveau. Ouais, je suis d'accord.
Sûrement, il a peut-être.
Non, je suis pas d'accord avec vous. Là, sur le deal Neymar, il a orchestré beaucoup de choses.
Alors, il a orchestré
beaucoup de choses. Il a fait des rendez-vous avec la famille. Il a organisé le relationnel avec la famille, Neymar et avec la famille Mbappé. Il a su impliquer son ami Pini Zahavi, qui se trouve être un très proche de la famille Neymar depuis une dizaine d'années, et on peut pas lui reprocher d'avoir des amis bien placés. Après,
je lui reproche pas Neymar. Après, voilà, je lui reproche toute la suite jusqu'à la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est un échec total.
Alors, on va juste reprendre. On va se rappeler de ce qui s'est passé sur ce mercato. Ok, alors Leandro Paredes.
Sur celui-là, sur l'autre.
Paredes,
on le trouve. Oh, voilà. Après 3 jours de recherche de Thomas Tuchel, qui l'a cherché dans les vestiaires, sous les douches, voilà, pour savoir où était passé Leandro Paredes.
Il y a un petit jeu, Bruno, qui s'est organisé entre Thomas Tuchel et Antero, dont Tuchel aussi se délecte. C'est-à-dire que, avec son humour et puis sa surface médiatique, parce que Tuchel apparaît 2, 3, 4 fois par semaine. Donc c'est sûr qu'il a un temps de parole. Et il s'en sert pour.
Puis il a l'opinion
dans la poche. Oui, donc il en joue. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'autre version de l'histoire. C'est vrai que Antero Henrique est très très discret. C'est-à-dire qu'il apparaît pas face caméra. Donc il peut pas nous raconter aussi les dessous des coulisses, etc.
As-tu assisté hier à la scène où il est passé voir les journalistes?
Bien sûr, tu parles d'Antero.
Ouais, d'Antero Henrique.
Alors, sur le terrain, avant le match, oui.
Et même la petite zone nourriture aussi, où il est passé dire bonjour aux journalistes parisiens. Truc complètement improbable. Non mais, il est en train de se rendre compte qu'il est en train de perdre une bataille médiatique.
C'est l'impression
que ça donne. Et qu'il essaie de retourner le truc, mais je pense que c'est trop tard. On revient juste 30 janvier, ça va signer. Là, tout d'un coup, rappelez-moi le nom de ce joueur de DC United, de Washington.
Acosta.
Voilà.
On a eu Acosta, on a eu William, on a eu tout le monde le dernier jour.
On a eu Gay. On a eu un Allemand aussi qui venait du circuit.
Du Werder Bremen, et puis il y a eu Thiago Mendes, évidemment, de Lille. Exactement. Lille attendait des nouvelles qui ne sont finalement jamais arrivées, mais il y a eu des discussions sur Thiago Mendes.
Et puis le dernier
il y a un conflit personnel maintenant entre lui et l'entraîneur. Et on a l'impression aussi à un moment donné que, quel que soit le profil proposé par Antero, Tuchel allait dire non. Et qu'il aurait toujours préféré Adrien Rabiot. C'est ça aussi qui ressortait des derniers jours. C'est qu'il préférait dire non pour se garder la possibilité de ramener aussi Adrien Rabiot dans le jeu dans les derniers mois.
Génial,
parce qu'il préférait, à la limite, un joueur comme Rabiot dont il connaît le potentiel sur les derniers mois, plutôt que prendre une solution un peu bancale comme ça et qu'il allait devoir gérer sur le long terme. Parce que tu recrutes un joueur dont tu veux pas trop au mois de janvier, mais tu dois te le farcir pendant peut-être un an et demi, deux ans, trois ans.
Ça, c'est toi qui le dis, mais ça, c'est pas des informations qui sont sorties dans la presse.
C'est ce qu'on a écrit, nous, dans le Parisien, pour raconter un peu cette dernière journée de mercato.
Les informations qu'on a eues, c'était qu'ils étaient bien sur Idrissa Gueye, mais ils ont formulé une offre de 25 millions.
C'était moi ce que j'ai de mon côté, et c'est comme un petit peu les copains du Parisien. Moi, les échos que j'ai, c'est qu'Idrissa Gueye, c'est pour enfumer l'écran de fumée le plus total. Hein. C'est-à-dire qu'ils leur ont mis 25 millions pour énerver Everton. Everton a toujours dit, mais nous, on ne bougera pas à ce prix-là. Ouais. Et le joueur a espéré, prié, mais Paris n'avait pas l'intention de mettre un centime supplémentaire dans la négociation.
Selon les sources, on a des versions légèrement différentes. Paris aurait reformulé une offre le 31 janvier à hauteur de 30 millions. C'est vrai que vu d'Everton, on a eu le sentiment que Paris faisait un petit peu semblant de vouloir Gueye. Et donc ils ont testé la piste. Ils ont dit tiens, on va le mettre de côté, on va le garder sous le coude. Mais ils n'ont pas tout fait pour le prendre.
C'est pas évident d'avoir sur les réseaux sociaux. Juste, je m'excuse, mais ça.
Il y a Jérém qui nous dit mercato catastrophique, mais en gros, grand, etc. Il y a Julien qui nous dit Henrique, c'est aussi Ressé, Krikoviak. Jean-Louis nous dit le PSG souffre de.
Krikoviak, non, là, franchement, là. Là
c'est des
là.
Questions.
Ah non, mais Krikoviak, il est pour rien. Hein. Krikoviak, il arrive en 2016.
On lui enlève ce poids, Grégor Krikoviak. Il faut rendre à Olivier Létang ce qui lui appartient. Quand même.
Il y a Jean-Louis qui nous dit le PSG souffre de gastro Henrique. Romain nous dit si tu ne mets pas un minimum de 150 millions, Henrique ne sert à rien. Après, je vous passe les Antero dégage, etc. C'est une bonne ambiance là.
En tout cas, pour Antero Henrique, on va y revenir. Je viens de voir Anthony. Jost, tu voulais réagir.
Moi, je pense que la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est du fair play financier et quelles sont les vraies sommes qui sont à notre disposition. Parce que même si on a de l'argent, quels sont les joueurs qui sont susceptibles de rejoindre un club comme le PSG en hiver? Aucun qui apporteront vraiment une valeur ajoutée comme il doit en apporter dans une équipe comme le PSG.
Et les montants. Parce que dès l'instant que c'est Paris, t'as l'impression que.
Et en plus, les montants, ils augmentent. Bim. Donc, avec une enveloppe de 30 millions, dites-moi une vraie sentinelle qu'on peut avoir aujourd'hui qui va apporter quelque chose au PSG.
T'as raison. T'as totalement raison. Quand tu regardes les favoris de la Ligue des Champions, tu regardes avec qui sont renforcés pendant le mercato d'hiver. En gros, personne.
Oui.
Pour une place de titulaire.
Parce que toutes les institutions ont fait un recrutement propre à la période estivale.
Exactement.
Mais même en période estivale, qui c'est que tu prends en sentinelle? Avec le fair play financier qui t'empêche de dépenser comme tu peux.
Non, mais on n'entend pas dans les autres clubs. Au mois de janvier, il y a des problèmes comme nous, on peut rencontrer.
Cite-moi un 6 accessible à 30 millions qui est intéressant.
À 30 millions, mais quand on me dit que le PSG a des problèmes avec le fair play financier, moi je veux bien, mais j'ai pas le sentiment que la direction du club soit dans cette optique tenue par des contingences financières très fortes, parce que là ils sont quand même sur Frankie de Jong de l'Ajax, ça c'était pas du 30 millions d'euros, non. C'est du 70, c'était 75, et finalement c'était pour l'été prochain, mais c'était des montants conséquents, donc ils ont encore des moyens, ils ont encore une possibilité de dépenser sur le marché
40,
des transferts.
T'as mis 40 sur la table aussi, un peu plus de 40 sur la table pour Paredes quand même.
Bah oui, avec un très beau salaire, avec un très beau salaire. Paredes, c'est pas le salaire d'Adrien Rabiot.
C'est combien pour le Paredes environ?
À peu près le double d'Adrien Rabiot. Voilà, les spécialistes comprendront. Non, le salaire d'Adrien Rabiot, c'est à peu près 300 000 euros.
D'accord.
Un peu moins de 300 000 euros brut, hein, c'est du brut mensuel.
Ah oui, si Paredes arrivait à l'Olympique de Marseille, tout le monde regarderait.
Serait autour du double d'Adrien Rabiot, hein, pour donner une ordre de grandeur.
Ok. Bon, voilà, c'est bon à savoir. Oui, Émilie. Et après, je viens de voir Anthony.
Il y a Tchèque qui nous dit c'est inconcevable qu'un directeur sportif ne soit pas en phase avec le coach, il n'en restera qu'un.
On va faire le tour de table. Justement, d'abord Anthony, tu voulais réagir.
Oui, non, de dire que c'est quand même incroyable qu'un club comme le nôtre se retrouve dans de tels problèmes fin janvier, quoi, début février.
Ah mais moi, en panic buy comme ça, moi ça m'a rappelé Alain Roche, Alain Chiesa qui est Everton et Souza. Non mais je te jure, le 31
c'est
janvier,
Alain Roche qui raconte lui-même.
T'avais l'impression d'être, t'étais là, waouh,
le PSG. On a la sensation que les années se suivent et se ressemblent. Alors c'est pas forcément toujours les mêmes joueurs, mais qu'à chaque fois on a un problème de profondeur de banc. Depuis l'arrivée des Qataris.
Là c'est même plus profondeur de banc, milieu de terrain, t'as plus les joueurs, t'as pas de joueurs.
De tout miser sur un noyau de joueurs vraiment top, mais toujours ce problème de et s'il y a une blessure, et s'il y a une suspension, et derrière.
Ouais, surtout comblé au fait qu'il y a des joueurs qui jouent pas à leur niveau aussi, je suis désolé, je reviens encore sur Draxler.
Parce que certains sont pas à leur poste non plus.
Voilà,
comme Dani Alves.
Mais ils jouent pas à son niveau. C'est pas possible.
Petit tour de table. Est-ce que vous pensez que Antero Henrique peut se faire débarquer avant la fin de saison? Je fais le tour de table. Juste petite question. Très rapide. Émilie.
J'aimerais, mais j'y crois pas.
Non, pas avant la fin de saison. À la fin de saison, probablement, mais pas avant.
Je suis aussi, pareil.
Fin de saison, sûrement. Mais moi, comme je vous dis, j'aimerais vraiment savoir quels sont les moyens qu'on a à disposition qui nous disent, voilà, cet été, on aura tant pour recruter, et qu'on le juge vraiment avec une somme qui nous est dite.
Et les directives qui vont avec.
Anto, tu penses que...
Antero ou Touraine? Parce que, est-ce que si on gagne pas...
Bah oui, c'est ça, c'est l'un des deux.
L'autre Coupe Nationale, si on se fait sortir en 8e, ou... ça sera un bilan moins bien que Unai Emery. Hein.
D'accord.
T'es pas fan de Tourelle, là, Anthony.
Je l'ai été au tout début lorsque contre Caen il a aligné 7 titis dans le dernier quart d'heure. Là j'avoue j'étais amoureux de lui comme jamais. J'étais en tribune de presse, j'avais l'impression d'être sur mon nuage, je sais pas ce qui se passait, plein des bisounours. Et puis plus le temps passe et non.
Bah l'état de grâce est terminé, c'est la réalité, c'est les blessures, c'est les premières défaites qui arrivent. Voilà, après moi sur Antero Henrique, il y a deux échecs énormes qui pèsent sur son bilan, c'est le De Jong là qui s'est fait il pensait l'avoir, ils se le font subtiliser par le Barça au mois de janvier, on n'en a pas tellement parlé mais c'est quand même un échec énorme. La non prolongation d'Adrien Rabiot qui est un fiasco symbolique, économique, tout ce qu'on veut quoi.
Effectivement qui est pourri finalement l'ambiance depuis le départ de toute façon. Là je parle pas du joueur, enfin c'est la problématique autour de ça.
Et après avec beaucoup de réserves parce que la version Antero Henrique, malheureusement, enfin et puis parce que le principal intéressé on a décidé ainsi, on ne la connaît pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a aussi des difficultés intrinsèques à ce métier de directeur sportif, c'est pas simple, voilà. Mais
sur De Jong, on sait pourquoi il a signé au Barça. Hein. On sait, il a eu un meilleur salaire et une garantie de temps de jeu.
Et puis, il trouvait que la Ligue 1, c'était pas terrible. Ouais. 18h40, on fait vite parce que J-8 avant Manchester United, il faut que, oui, parce que Chloé, elle adore le foot, mais quand même, il y a un moment, il va falloir raccrocher. Elle réalise cette émission. J-8, Ole Gunnar Solskjaer, il était bien hier.
Avec son petit bonnet, là, ouais,
très bien. Alors, par contre, tu sais quoi? Je sais pas si ça vous a fait la même impression, mais quand j'ai vu son visage, quand on nous a annoncé qu'il était là, ben moi, pour moi, c'est un entraîneur à l'ancienne. Tu sais, t'envoies pas les scouts. Non, attendez les gars, je vais aller voir le match de l'adversaire. J'avais plus entendu ça depuis des années. C'est vrai que tu vois de moins en moins maintenant les entraîneurs se déplacer. Maintenant, ils regardent sur vidéo, ils envoient leurs scouts, ils envoient les entraîneurs adjoints. Là, Pépère, il est arrivé tranquille au Groupama, il est arrivé à Décines, il est reparti dans l'autre sens. C'était à l'ancienne, mais il a vu tout ce qu'il fallait.
Tout.
Surtout hier, hein.
Grâce à Pep Genesio.
Ouais, exactement. Bah, s'il est malin, il a vu où étaient les tendons d'Achille du PSG. Hier soir, il y en avait quelques-uns. Alors, admettons que Thiago Silva retrouve sa vitesse, que Kimpembe soit impérial, voire Marquinhos. Mais il a vu Bernat, il a vu Daniel Alves, il a vu pas mal de choses. Ça doit lui donner des idées avec son équipe. Alors, moi, je pense que c'est tout à fait jouable pour le Paris Saint-Germain, mais il faudra un Paris Saint-Germain vraiment au top. Le même Paris Saint-Germain que face à Liverpool ou face à Naples, sauf que il manque un mec et celui-là.
Mais ils sont capables.
Et attention, on relativise. Moi, j'ai envie de vous dire à tous et même à moi-même aussi, détendons-nous. C'est un match aller. Il faut limiter. On est à l'extérieur. Faut limiter la classe, c'est sûr. Faut pas en prendre trois. Voilà. Non, mais là, voilà. Faut pas en prendre trois. 3-1, c'est.
Toutes tes défaites que t'as fait cette saison, c'est du 3-2, 2-1, 2-1. Voilà. Voilà, t'es pas non plus complètement.
C'est un match aller. Donc, voilà. Faut pas.
Un but d'écart, max. Et là, tu fous le feu au retour au Parc des Princes, évidemment.
Le contexte du stade aussi, pour avoir été à Liverpool, je pense que public mancunien peut avoir son rôle. Donc, il faudra être bon premier quart d'heure et comme tu disais maximum un but d'écart.
Alors j'ai beaucoup de respect pour tous les clubs anglais, mais je pense que Manchester United c'est pas le stade qui va nous retourner la tête.
Pour y être allé,
je crois beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui viennent
Ça pousse quand les attaquants de Manchester United sont à 30 mètres du but.
Ouais, ça reste quand même un stade impressionnant, c'est un des plus grands.
Ah oui, c'est Old Trafford.
Les tribunes sont à 2 mètres de la ligne.
Il est impressionnant quand tu arrives et que tu vois écrit Old Trafford, effectivement.
Non, mais les joueurs.
Mais une fois que t'es dedans.
Notre spécialiste de la BPL.
Ouais, non.
rapide, est-ce qu'on va devoir raccrocher.
Manchester United, ça tombe plutôt bien. Quoique cette semaine, ils ont été gagnés à Arsenal. Ils ont été accrochés face à Burnley. À domicile en plus, donc ça peut aussi donner des idées au PSG de regarder ce match. C'est vrai que Burnley joue un petit peu comme des morts de faim, ils ont beaucoup pressé, donc ils ont mené 2-0 et c'est Manchester qui est revenu. Dans ce match-là, je pense pas que si c'était Mourinho qui était à la tête, ils auraient eu le courage de revenir. Donc c'est vrai que Solskjaer, il donne cette force à son équipe, cette joie en fait que les joueurs ont de jouer vers l'avant, d'attaquer. Donc faudra être super prudent sur ça. On n'a pas parlé de Kimpembe, mais je le trouve vraiment dans le dur moi ces derniers temps. Il a du mal à encaisser la Coupe du Monde, j'ai l'impression, et c'est symptomatique de beaucoup de joueurs hein, malheureusement. Mais va falloir être vraiment solide défensivement face à cette équipe.
Hier soir, c'était
compliqué quand même.
Il n'était pas performant.
Fait le match de sa vie, mais je ne l'ai pas trouvé si terrible que ça.
Moins pire que lui.
Il y en a d'autres qui ont été bien plus mauvais que lui.
Oui,
hier soir,
mais c'est quand même un des patrons de la défense.
Je suis d'accord,
depuis
ce qu'on attend la saison d'après.
En tout cas, 18h44, Tribune PSG va bientôt se terminer. J-8, je vous rappelle que la semaine prochaine, vous inquiétez pas, ce sera du Manchester United PSG. Je serai déjà là-bas. Tu seras là-bas aussi
Oui, lundi prochain, bien sûr.
Lundi prochain, bon, voilà, on sera en direct. Je prendrai Ronan sous le bras et on viendra faire un petit coucou pour la team, bien sûr, avec Nicolas Olivier, que vous retrouverez dans cette émission, avec Marcus Kaufmann, je vous rappelle, invité de l'émission pour parler de Thomas Tuchel.
Il faut qu'on ait le livre.
Oui, c'est ça. Tiens, je te le donne, tonton, tu vas pouvoir le lire. Voilà, comme ça, tu l'auras.
Tonton va attaquer
la lecture d'entrée. 18h45, on va se dire au revoir, merci Anto, Vivien, Titi du PSG.
Bah, un petit coup, merci.
La bisou Titi, c'est ça.
Voilà, toutes les équipes Titi, Stéphie, Gladys, Sophie, Alexandre, etc. Ah, et puis je vous donne rendez-vous le 26 mai prochain au Camp des Loges pour le 6e rassemblement de tous les anciens Titi, les Mboma et compagnie, Nouma, Fabrice Abriel, et on réunit tout le monde pour une œuvre caritative pour la petite Candy qui est atteinte d'une maladie à sa colonne, au niveau de sa colonne vertébrale. Donc on va essayer de réunir des fonds pour aider la famille du mieux possible, réunissant donc toute une génération de Titi au Camp des Loges, encore une fois. Sixième année consécutive. Et bon anniversaire mon père. Et bon anniversaire à mon papa.
Ah, très bien, voilà.
Moi aussi, c'est l'anniversaire de mon papa demain. De mon papa, c'est demain.
Sans personne, d'accord. On lui fait des gros bisous.
Parce qu'il n'y a pas de Neymar et mon papa.
Quel anniversaire à fêter, Joss?
Non, bah ça va.
Non, c'est bon. Joss, soigne-toi bien.
Merci beaucoup, les amis.
Merci beaucoup. Salut, Joss. YouTubeur à retrouver, bien sûr, pour le rap et le foot. D'ailleurs, un de ces quatre, vivement qu'on ait un rappeur. Tiens, dans l'émission, on va essayer de s'organiser. Ouais, d'accord, on va essayer de s'organiser. Je sais. J'essaie de suivre. Je suis pas tout, mais j'essaie de suivre. Salut Anto. Salut Ronan.
Salut
à la team du Parisien.
On va passer le bonjour.
Salut Stéphane, à demain matin 8h10.
Exactement. Demain, le sujet, ce sera Adrien
Rabiot. Au hasard. Voilà. Et mercredi, bon, Adrien Rabiot. Et jeudi, Adrien Rabiot. Alors, retrouvez en podcast.
Non, bah, mercredi, on présente Villefranche.
C'est Villefranche of Beaujolais.
Exactement. Allez. National, hein, national quand même. Hein. C'est tout pas à fait. Il faut pas les prendre.
C'est pas non plus pour les
pas. Pour des rigolos.
On est bien d'accord. Salut Queen Bee.
Salut.
Bisous.
À plus.
Salut.
De meilleure humeur.
Voilà, Lily Ross qui était de mauvaise humeur à cause de la défaite. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment dans cette émission. À retrouver en podcast sur YouTube ou Daily Motion. Salut à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Ciao. Bye bye. Et on se retrouve la semaine prochaine et déjà aussi dès 18h30 mercredi pour Villefranche en Beaujolais. PSG à suivre en intégralité sur cette antenne avec Rico Rabé et Sandra Tana du côté du Groupama Stadium. Oui, t'inquiète, je coupe. Voilà, je coupe. Allez, ciao, bye bye.
On est dimanche matin, à bientôt.